Okay, good evening. It's great to be with you tonight.
Bonsoir, c'est bien d'être avec vous ce soir. Et si on peut tourner à Nombre 24. Et on va lire du verset 1 à 5. Et prions. Père, on te remercie quand la parole vient du pupitre. Seigneur, merci pour le don du pasteur enseignant. Et nous sommes ici ce soir pour glorifier ton nom. Nous te demandons de nous parler à travers la parole et qu'on puisse te respecter, te chercher et te connaître. Et voilà le but de notre vie ce soir, te connaître. Aide-nous à te connaître ce soir, Seigneur. Et nous demandons ça dans le nom de Jésus. Amen. Au verset 1 du chapitre 24 de Nombre, Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël, et il n'alla point, comme les autres fois, à la rencontre des enchantements. Mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux et vit Israël campé selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle et dit, « Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. » Et regardez au verset 5, « Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. » Et donc Barak l'avait amené en haut de la montagne pour maudire Israël, et au chapitre d'avant, il ne pouvait pas maudire Israël. Il a dit, « Comment pourrais-je le maudire quand Dieu ne l'a pas maudit ?» Quand Dieu lui-même ne l'a pas laissé. Il a dit la chose la plus belle, le verset le plus beau, que Pasteur Stevens a cité tellement de fois. Il n'a trouvé aucune iniquité en Jacob, ni aucune perversité en Israël. Le Seigneur, le Dieu, est au milieu de lui. Et quand Jacob a regardé en bas, dans les tribus d'Israël, il dit qu'il a regardé et ils habitaient par rapport aux tentes et dans. Et vous pouvez regarder le nombre de gens qu'il y avait à l'ouest du tabernacle, à l'est, au nord et au sud. Et quand Israël habitait dans les tentes, le tabernacle était au milieu. Et quand on regarde le nombre de tribus, il y avait 1000 tribus à l'ouest, 1000 tribus à l'est, et 150 au nord et 150 au sud. Et si vous regardez sur la montagne, le nombre, les tribus et le nombre qu'il y avait, cela avait la forme d'une croix. Parce qu'il n'y a rien de fantastique à propos des tentes. Ils sont sales, ils voyagent, ils ont toute la poussière du voyage. Et pourtant, il dit, comme elles sont belles tes tentes, ô Jacob. Il ne pouvait pas maudire Israël à cause du sens de ces choses. Et il voyait Jésus-Christ à travers le sens des tentes qui étaient autour du tabernacle. Et dans Jean 5, 36, il dit, Moïse a écrit à mon sujet. Moïse a écrit à propos des portes. Moïse a écrit à propos de l'autel de Jésus-Christ qui était notre sacrifice, de Jésus qui nous lave de tout péché, qui nous lave à travers la parole qui nous est prêchée. Quand ils ont parlé du chandelier, ils ont dit aussi que Jésus était la lumière du monde. Quand ils ont parlé du pain sans levain, ils ont dit que Jésus était le pain. Quand on a parlé de l'encens, Jésus qui est une bonne odeur pour Dieu, et le Saint des Saints, et Jésus qui est la miséricorde pour nous. Et depuis la porte du tabernacle et à l'intérieur du tabernacle, vous pouvez voir aussi une croix, parce que tout parle de Jésus-Christ. Et dans notre vie, nous avons Jésus n'était pas seulement le moyen pour laver le péché pour le monde, mais il réconciliait le monde avec Dieu, ne leur imputant point leur péché, dans 1 Corinthiens 5:19. Donc nous avons atonement, une attitude de respect. Et il n'y a rien. Et si j'avais une attitude de condamnation aujourd'hui envers qui que ce soit dans cette pièce ou dans le monde, alors je ne serais pas en respect devant Dieu. Parce que Dieu nous regarde comme dans le Cantique des Cantiques 4:7. Oh, comme tu es belle, ma colombe, et je ne vois aucune tache en toi. Oh, comme tu es belle, et je ne vois aucune tache en toi. Vous pouvez regarder ce soir sur Internet et avoir délibérément commis un avortement. Ce soir, je te vois belle, mon ami, et tu n'y as pas de tache en toi. Et tu peux avoir conduit ta voiture et produit un accident, et c'était ta faute, et des gens ont été tués dans cet accident, et tu vis dans la condamnation de cela. Mais Dieu dit ce soir, tu es toute belle, mon ami, et je ne vois pas de tache en toi. Dans Ésaïe 43, 25, j'ai lavé tes péchés pour moi-même, et je ne me rappellerai plus de tes péchés, je l'ai fait pour moi-même, parce que ma colère, je ne peux plus laisser ma colère venir sur toi à cause que j'ai lavé tes péchés et je ne m'en souviendrai plus jamais. Et dans Ésaïe 44, 22, comme une épaisse nuée, j'ai enlevé tes péchés. La plus belle chose ce soir, c'est que vous et moi ce soir, alors que nous sommes des croyants, nous n'aurons plus à faire face à la colère à cause de la croix. Il est devenu une malédiction pour nous. Et le mot, c'est huper, qui veut dire qu'il était au-dessus de nous. Et la colère de Dieu est venue. Sont venus tous sur la croix et ce soir c'est fini. Rien n'est venu, rien ne viendra sur nous. Et je peux vivre comme dans Éphésiens 4, 29, vivre jusqu'à la fin sans qu'il y ait de paroles méchantes qui sortent de ma bouche. Si je suis perdu avec mes paroles au milieu de la foule, c'est parce que je deviens léger dans mes pensées à propos de la croix. Quand je comprends la croix, je vois chacun dans une attitude d'amour. Et Dieu, si Dieu marquait les iniquités, Comment est-ce que je pourrais demeurer si je parle négativement de quelqu'un? Je vais rentrer dans une forme de propre justice. Mais Dieu, nous te bénissons ce soir que nous pouvons avoir une bonne attitude avec notre bouche. Comme Jacques l'a dit, de la même bouche sortent la malédiction et la bénédiction. Pensez à ce verset ce soir. De la même bouche viennent la bénédiction et la malédiction. Et je suis sur la route et je croise quelqu'un et je suis où? Et je dis, oh, quel idiot! Je ne peux pas croire qu'il a un permis de conduire, celui-là. Et puis je rentre à l'église et je loue Dieu. Et puis je ressors de l'église et puis là encore, je recommence sur la route à invectiver quelqu'un et juste peut-être c'est un frère ou une sœur et je suis en train de le maudire. Donc, Amy Carmichael a dit que tout ce que nous disons arrive dans une de ces trois choses. Est-ce que c'est gentil? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est gentil? Et est-ce que c'est nécessaire? Et quand je vis ma vie devant Dieu et que je réalise que je suis couverte par le sang de Christ, alors il n'y a pas d'importance dans autre chose que le fait que je suis couverte par le sang. Il a dit dans le désert de Goshen, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Quand je verrai le sang était pour Dieu, pour qu'il puisse nous aimer librement et avoir une communion avec nous dans l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Et je remercie Dieu ce soir que nous ayons une croix, une grande croix. Et je vois le corps de Christ, je vois une grande croix, comme Balaam a regardé derrière la montagne. Il a dit, elles sont belles tes tentes, ô Israël. Et quand nous passons dans ce monde et que nos pieds se salissent dans ce monde et que nous allons au travail et que peu importe comment on se retrouve dans la vie, nous avons un but et Dieu qui nous regarde et qui dit, je te vois toute belle mon ami et je ne vois pas de tache en toi. Merci Seigneur, merci Dieu pour Jésus-Christ, pour l'éternité, parce qu'on sera en train de le louer sans cesse. Tu as tout payé, tu as tout donné, et tu nous as tout donné à cause de Jésus. Amen. Pasteur Love et les jeunes sont sur la route. Et je vois, quand je vois tous les sièges vides, je me dis, oh c'est pas bon, hein. Non, c'est pas bon, hein. Et vous, les pasteurs, est-ce que ça vous affecte de voir toutes ces places vides? Oui, non. Allez, on est dans des beaux jours et la parole de Dieu, nous sommes dans un réveil et les gens sont sérieux et les gens travaillent fort et nous croyons et nous sommes dans un... Et nous voulons prendre avantage de ce que nous avons. Parce que nous ne savons pas si nous l'aurons encore dans quelque temps. Qui sait? Mais nous voulons racheter le temps et vivre par la foi et écouter et s'approcher et apprendre. Nous sommes en train d'apprendre. Nous sommes dans Jacques, mais d'abord on va tourner dans Romains 4. et remarquez un principe là, dans Romains 4, et merci Sky Zucker pour la merveilleuse petite île de plantes qu'elle nous a fait au milieu du parking. C'est magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à notre réunion de pasteurs aujourd'hui, c'était une vraie bénédiction. Et le culte de ce matin, c'était fantastique. Vraiment, vraiment, c'était deux belles réunions. Il y a des nouveaux aussi qui viennent. Vous êtes là du Tennessee? Voulez-vous vous lever pour un petit moment? J'ai oublié votre nom. Quel est-il? La voilà. C'est bien, non? C'est tellement bon. Des gens aussi de ceux qui étaient à Silver Spring ce matin, à Millport, avec John Perkins, à Marlboro. Pasteur Chebelli a appelé de l'Ukraine. Il n'a plus de voix, de nouveau. Il a dit, c'était des temps extraordinaires avec 300 personnes. C'était rempli de monde. Les gens venaient de la Croatie. Il y en a 50 personnes qui sont venues de Hongrie. Et c'était... vous le connaissez, hein, c'était vraiment... Il était tout enthousiaste. Quel temps merveilleux. État de Maryland, nous arrivons. Baltimore, nous n'avons pas fini. Nous aimons Baltimore. J'aime la poussière et les pierres de Jérusalem, le psaume dit. J'aime la poussière et les pierres de Beltway à Baltimore, dans la ville de Baltimore. Oui, je l'aime. L'autre jour, on a fait un sketchboard sur un marché, il y a à peu près une semaine. On a eu, vendredi après-midi, un temps de prière, à peu près 2 heures, juste commencer de prier, penser dans la foi, à propos de Dieu, à propos du futur, penser à propos des gens, les aimer. Et dans la foi, juste se rendre compte de ce qu'on a. Remarquez dans Romains 4, et on ira après à Jacques 2. Mais regardez ici, Abraham a été justifié au verset 2 par les œuvres. Et s'il a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Abraham croyait Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et donc là, je vais faire un petit dessin. Je ne sais pas comment ça va marcher sur l'écran, mais voilà Abraham. Regardez comme il est beau. Vous le voyez? Abraham. Donc il a dessiné un petit bonhomme. Donc, on a Abraham, et voilà, il croyait Dieu à un point dans le temps. Et on va montrer ici une croix. Il croyait en Dieu. Il croyait Dieu. Et donc, devinez quoi? Dieu, dans le ciel, lui a donné la justice. Dieu lui donne la justice. Et combien de temps ça lui a pris pour la recevoir? Immédiatement. Juste maintenant, dans un point dans le temps. Et quand il l'a circoncis, et quand est-ce que la circoncision est venue dans sa vie? Donc, quand nous avons eu cela, maintenant, il y a 30 ans, depuis ce moment-là, si je me rappelle dans la Bible, le moment d'où il a cru et juste où il a été appelé justice, dans Genèse 15, 7, 6, jusqu'au moment de la circoncision, nous avons un bon moment. Là, il a été circoncis, pas en même temps. pas en même temps. Dans une application pour nous, vous pouvez être baptisé plus tard, mais vous pouvez être sauvé au moment où vous croyez. Vous pouvez parler en langue plus tard, si vous le voulez. Vous savez? Voilà, bon. C'est ce que certains chrétiens font. Et il y a tellement d'enseignements qui ne sont pas justes à ce sujet. Il y a tellement de gens qui disent que vous n'êtes pas sauvés si vous ne parlez pas en langue. Donc vous pouvez croire Dieu, être fait justice et être sauvé. Et plus tard, il y a des évidences de votre foi. Mais comme un arbre. Comme un arbre qui portera du fruit dans sa saison, ainsi est le croyant. Et au verset 9, ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Quand donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. La circoncision est venue plus tard. Ce n'était pas relié à son salut. Et dans ce point dans le temps, dans Romains 5, au verset 9, maintenant regardez dans Jacques, au chapitre 2. Ce soir, ce ne sera pas une longue leçon, mais ça sera quand même bien. Ça sera bon. Ce sera très utile. Et Brian m'a dit qu'il voulait que je prêche, donc. Donc, il y a beaucoup de versets ici. Mais c'est comme ce soir, c'est un moment très rapide à propos de Jacques, donc on ne va pas rentrer dans trop de détails. Mais nous avons regardé au verset 1, dans chapitre 2, que nous devons être exempts de tout favoritisme. Vous devez aimer votre prochain comme vous-même. Mais si vous faites du favoritisme, alors vous péchez. Au verset 9, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Si nous ne respectons pas les gens, nous ne vivons pas dans l'amour. Mais au verset 10, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Et on va regarder encore un dessin. Alors maintenant, nous avons comme un pot, une jarre. Voilà. Si je le casse à un endroit précis, tout va être brisé. La jarre va être cassée. Si la jarre représente la loi, si vous cassez la loi à un endroit précis, alors tout est cassé. Tout est en morceaux. Et c'est de la même manière, nous en tant que croyants, si nous vivons en dehors de cette grâce qui nous a été donnée, l'Esprit de Dieu qui habite en nous, la pensée de Christ qui nous a été donnée, à un point précis, vous le recevez pas par les œuvres et pas par la loi. Le salut, ce n'est pas en gardant la loi. La loi nous a été donnée afin que notre bouche soit fermée et nous nous retrouverons coupables devant Dieu à cause de la loi. Mais maintenant que nous sommes sauvés, le fait de garder la loi par nous-mêmes, nous allons voir que nous nous retrouvons comme des transgresseurs. Et la loi dit, si jamais tu tu t'en sors pas à un endroit, tu es coupable sur toute la ligne. Tu casses tout. Au verset 10, il est coupable de tous, de tous les commandements. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Et il y a plus de 600 lois qui ont été données dans l'Ancien Testament. On va dire peut-être 609 lois. Le nombre de lois est très, très grand. Il y a les lois civiles, les lois religieuses et les lois morales. Et vous devez toutes les garder. Mais vous allez dire, je ne commets pas l'adultère. Oui, mais est-ce que tu te plains? Est-ce que tu blasphèmes? Est-ce que tu maudis? Est-ce que tu calomnies? Est-ce que tu portes de faux témoignages? Et nous disons non, dire oui, nous le faisons. Peut-être pas chaque jour, peut-être pas tous les jours, nous cassons ces lois, mais un jour, nous le faisons. Et le jour où nous le faisons, nous enfreignons une loi, alors nous enfreignons toutes les lois. Au verset 12, donc parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Voilà une autre loi, la loi de la liberté. C'est une nouvelle loi. C'est une loi donnée par la grâce à la croix. Parce qu'actuellement, dans notre dessein, il y a une autre loi qui se trouve derrière la loi brisée. C'est la loi de la croix. Donc derrière le vase brisé, il dessine une croix. Et maintenant, cette croix, c'est une autre loi. C'est une loi qui transcende la loi de la mort. La loi du péché et de la mort dans Romains 8, 12. La loi de la liberté a vaincu ces choses. Il a pris le péché sur lui-même, il est mort et il a été jugé pour que nous puissions être libres. Et cette loi dans laquelle nous vivons aujourd'hui est une loi royale, la loi de l'amour. Et nous regardons dans la loi de la liberté et nous voyons qu'il y a quelque chose qui ne vient pas de nos propres efforts. Comme Abraham, sa circoncision n'avait rien à faire avec sa propre justice. Si vous êtes circoncis ou pas, ça n'apporte rien au don qui vous a été fait à un point précis dans le temps, quand vous avez cru. Vous êtes complètement équipé. Et au verset 13, « Car le jugement est sans miséricorde. » Pour qui n'a pas fait miséricorde? Il est en train de dessiner quelque chose encore. Voilà un autre principe encore. Un chrétien, et je change de couleur, un chrétien, je ne sais pas si c'est bien, si ce n'est pas bien, mais en tout cas, je suis content de faire ça pour que vous compreniez. Il y a des chrétiens qui vivent par la loi. Et voilà, regardez, je mets de la couleur ici, et on va dire que c'est un chrétien qui a de la peine à donner de la miséricorde. Quand vous vivez sur votre propre justice, que vous vivez par la loi, vous voulez remplir la loi, donc vous avez du problème à vous donner la grâce et à donner la miséricorde aux autres aussi. Celui qui juge sans miséricorde, et qui n'a pas montré miséricorde. Donc, le petit bonhomme en violet que j'ai mis à l'intérieur du vase de la loi qui est brisé. Voilà, ce petit bonhomme n'arrive pas à vivre dans la miséricorde. Il est en train de manquer la liberté, la loi royale de l'amour, parce qu'il est rentré dans un programme d'œuvre. Et c'est ce qu'on essaie de faire en tant que personne. On essaie de rentrer dans notre propre loi de la chair. Au lieu de vivre par la grâce, on vit dans la loi, on vit par nous-mêmes, par nos propres forces. Au verset 14, c'est ce qui est dit. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Nous sommes en train de dire. Vous savez, il y a des gens qui disent, je crois. Bien sûr, je crois. Mais il y a aussi la vie. Est-ce qu'il y a une évidence de cette foi? Est-ce qu'il va à l'église? C'est une bonne indication. Est-ce que je suis dans une église remplie du Saint-Esprit? Est-ce que je vis de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu? Est-ce que je vis par la foi? Je ne sais pas combien de personnes a-t-on envoyé ces six dernières années. Et je pense à tous ces gens qui sont partis dans tous les pays du monde et tous ces gens qui sont partis sur le champ de mission. Et ces gens qui sont partis par la foi, ils ne sont pas sûrs, mais ils sont partis par la foi à cause de l'amour de l'Esprit de Dieu qui est en eux. Et voilà donc il y a une évidence de leur foi. Et ce n'est pas un programme d'œuvre. Mais il y a des fruits qui en ressortent, il y a un travail de la foi. Et il y a deux exemples qui sont donnés ici, au verset 15. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? » Et je pense que nous sommes tous, que nous connaissons des gens qui parlent, mais dans lesquels il n'y a pas d'action. Ils disent, mais est-ce qu'il y a Dieu dans leur vie? On les rencontre dans la rue et on n'est pas leur juge. On doit faire très attention de ne pas juger. Et je pense à ces gens qui sont dans de mauvaises conditions, on va les aimer. Mais parfois, il y a une hypocrisie quand les gens disent, « Oh oui !» Vous savez, ils ont ce langage, mais quand quelqu'un est malade et qu'il est pauvre et qu'il est nu et que quelqu'un n'a pas de nourriture et que quelqu'un n'est pas croyant, qu'il n'y a pas de soins donnés, qu'il n'a pas de conviction, qu'il n'a pas de motivation, alors où est la foi? Au verset 16, verset 17, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et là, on peut faire un autre dessin. Et voilà, je dessine un arbre. Quel bel arbre. Voilà, ça c'est l'arbre de la vie, c'est Dieu en vous. Nous sommes des arbres plantés en Dieu, dans le Seigneur, mais il n'y a pas de fruits. Mais il y en aura, parce que c'est un pommier. Maintenant, vous ne voyez pas les fruits. Mais la personne est croyante, elle a l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu bouge dans leur cœur Il agit dans leur cœur et l'arbre sans fruit est un arbre. Mais si il a la foi, il doit montrer ses œuvres. Paul n'utilise pas ses fruits, il n'utilise pas le mot fruit, Paul utilise le mot fruit et Jacques utilise le mot œuvre. Paul parle des œuvres. Il dit que nous ne sommes pas justifiés par les œuvres. Il ne contredit pas Jacques. C'est juste qu'il utilise des mots différents dans le contexte qui était aussi un peu différent. Regardez-vous, je vais vous montrer quelque chose au verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Abraham justifié. Mais c'est l'évidence que sa foi était vue dans le fait qu'il a offert son fils 30 ans après qu'il a cru, il l'a offert Isaac. Donc cet arbre, c'est comme un croyant, mais nous n'avons pas encore vu les fruits venir. Voilà les fruits maintenant, ça y est, je les dessine. Et cela vient, les fruits arrivent, mais c'est comme Abraham offrant son fils, c'est comme nous et dans les pauvres. Au verset 25, Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres? Et l'évidence de sa foi a été vue dans le fait qu'elle a reçu les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin. Abraham a caché les espions. Et je ne crois pas dans les mensonges. Je sais que de dire la vérité, c'est le meilleur moyen d'aller de l'avant. Vous ne calomniez pas, vous ne donnez pas, vous ne médisez pas contre les gens. C'est le meilleur moyen de vivre heureux. Pas beaucoup de problèmes, une bonne conscience, on se couche heureux. Je n'ai pas été déshonnête. Voilà comment je vis. C'est un bon moyen. C'est une manière de vivre heureux. Et c'est une manière de vivre remplie du Saint-Esprit aussi. Mais il y a deux hommes sur mon toit. Ils vont être tués. Que devrais-je faire? C'est la seule endroit que je connais c'est le seul moment où je trouve normal de ne pas dire la vérité, c'est quand la vie d'un homme est en danger. Il y avait des décisions qui devaient être prises pour cacher les Juifs à un certain moment du siècle. Et elle n'était pas un menteur, elle était pire que ça. Mais parce qu'elle a cru, il y a quelque chose qui lui a été donné. Et le fruit de sa foi a été vu dans le fait qu'elle a caché ces deux hommes et qu'elle a dit, Dieu vous a donné le pays. Ces gens ont peur de vous et je vais vous dire, presque comme une prophétie qui sortait d'elle, je vais vous dire, quand vous viendrez et que vous allez prendre possession du pays, rappelez-vous de ma famille, rappelez-vous de moi, parce que je sais que Dieu vous a donné le pays. Ça, c'était le fruit, comme ces fruits que j'ai dessinés sur cet arbre. C'est quelque chose qui s'est passé là, à ce moment précis. Et on ne sait pas quand elle est devenue croyante. Mais c'était probablement cette même image que, à un moment précis, voilà cette femme, à ce point, précisément, la voilà quand la grâce vient vers elle où elle a cru. Et il a dessiné une croix derrière cette femme, la croix qui est venue. Est-ce que Rahab faisait des bonnes œuvres? Est-ce qu'elle donnait de l'argent aux pauvres? Est-ce que c'était une religion qu'elle avait? Non. C'était un moment précis de sa vie. Et je pense que notre histoire, la manière dont nous croyons, c'est un moment précis dans notre vie. Les fruits vont sortir. Vous allez voir des fruits qui vont venir dans votre vie. Ils ont cru à Dieu quelque part sur la route et ils sont venus à l'église. Ils ont pris le téléphone et un jour, ils ont prié pour des gens. Ils ont cru. J'ai cru Dieu un jour et je suis parti en Inde. J'ai pris ma famille et j'ai tout laissé comme Abraham a laissé et je suis parti. Et ça, c'est le fruit. Cela ne nous n'est pas juste en rapport avec le salut. C'est pas juste en rapport avec le salut. C'est la justification au départ. C'est le don du salut au départ. Mais comme Jacques l'utilise au départ, c'est comme l'évidence de votre salut. Et il a donné deux évidences. De la foi, c'est Rahab et Abraham qui offrent son fils. Deux exemples vraiment pas habituels. Et j'aime ces exemples. Et j'aime regarder autour de moi. J'aime regarder ce qui a été fait sur le parking. Et j'aime regarder les missions. Et j'aime regarder les téléphones, les différentes activités, les prières de foi. Le pardon que nous donnons aux gens qui sont coupables. Et nous pouvons regarder encore ce dessin. Voyez maintenant, la loi qui n'est pas brisée, c'est ce grand vase dans lequel je mets tous ces fruits. C'est la loi. Alors que nous vivons dans l'esprit, nous accomplissons la loi. Alors que nous nous aimons les uns les autres, et que nous sommes remplis d'un amour inconditionnel. C'est l'amour de Dieu au milieu de nous. Et quand certains se retirent, mais nous ne nous, nous retirons pas, nous ne faisons pas partie d'eux-mêmes, mais nous vivons pour celui. C'est comme il est en train de rajouter des fruits de partout et ça déborde du vase. Et voilà la vie. Je ne veux pas me reculer, je veux m'approcher, je veux m'approcher des dirigeants, je veux. Et vous savez que nous ne sommes pas des gens parfaits et nous ne vous demandons pas de nous suivre, mais nous vivons par la grâce de Dieu, par la foi et par l'Esprit de Dieu. Et nous sommes des membres du corps de Christ, et nous grandissons dans ce corps, et nous pouvons avoir confiance, parce que c'est Dieu qui amène ses fruits. Mais certains, et dans Jacques c'est écrit, il est dit, voilà la loi, voilà la Bible, et nous sommes là. Donc il a dessiné une Bible ouverte, et un petit bonhomme en dessous. Et il y en a d'autres. Et il a redessiné encore un petit bonhomme. Et maintenant, eux, ils se mettent au-dessus de la parole de Dieu et ils se tiennent comme jugement pour les autres. Ne parlez pas mal les uns des autres, car celui qui parle mal de l'autre,
who and I don't know where, but I know that they're doing so. And I thought about it in the scripture and in the spirit, and I got angry about it in the spirit.
J'ai entendu dire qu'il y a des gens qui parlent mal les uns contre les autres, et j'étais à la maison et je pensais à ces choses. Et au verset 11, il est marqué, ne parlez pas mal les uns des autres. Ne parlez pas mal des frères. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Ne parlez pas mal des frères. Et vous qui êtes sur Internet là, vous parlez mal des frères, vous le faites. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je sais que vous le faites. Et j'ai des noms dans ma pensée. Vous parlez mal des frères. Et il est dit, celui qui parle mal des frères et qui juge son frère parle mal de la loi. Et c'est comme dans mon petit dessin, qui est le juge? Il a dessiné un petit bonhomme au-dessus de la Bible. Il est tellement haut dans sa façon de penser qu'il parle mal de la loi aussi. Quand il parle mal de son frère et qu'il juge son frère, peu importe si ton frère est coupable, tu ne peux pas parler mal de ton frère. Tu parles mal de la grâce et de l'œuvre accomplie et de l'Esprit de Dieu et de la miséricorde et de la vérité et de la sagesse et de la croix et du Fils de Dieu. C'est une honte pour nous. Celui qui juge la loi, si tu parles mal contre ton frère, donc il parle mal contre son frère, et il parle non seulement mal contre la loi, mais il n'est pas un pratiquant de la loi. Donc, cette personne-là, elle est vraiment terrible. Voilà, je l'ai... Il n'est pas un pratiquant. Il parle beaucoup, même la nuit, même le jour, mais il ne pratique pas ce que Dieu dit. Il ne voudrait pas donner sa vie pour les frères. Il ne voudrait pas passer la nuit sur ses genoux, mais il parle mal, il parle contre la loi, il n'est pas, mais il est un juge. Et le Seigneur va le rencontrer. Et voilà encore un autre petit dessin. Voilà ce frère qui tombe sur ses genoux. C'est celui qui est maintenant soumis à la parole de Dieu. Il tombe sur ses genoux. Et voilà mon frère. Lui, il a des problèmes. Celui qui est sur ses genoux, il a des problèmes. Et mon frère a des problèmes aussi. Et je vais à la parole. Et je vais recevoir la miséricorde. La parole me dit que je vais recevoir la grâce. Je vais entendre la vérité. Et maintenant, je dis à mon frère, je prie pour lui, je le pardonne, je l'aime. Et qu'est-ce que je vais faire? Je deviens un pratiquant de la parole. Dans Jacques 1, celui qui entend et qui ne pratique pas sa religion est vaine. Mais cet homme, et regardez cette image ici, il est un homme qui porte du fruit et il nous montre le vase rempli de fruits. Est-ce qu'il est juste? Non, mais il a la grâce, il a la loi royale de la liberté et il a l'amour. Et il donne, il sert les frères avec Christ. Et regardez ici, et je vous remets à cette ancienne image de l'arbre qui porte du fruit, et nous pouvons revenir à l'autre image aussi, où on voit le vase brisé parce qu'on vit selon la loi. Ce que nous avons par la grâce, quand nous ne sommes pas seulement des pratiquants, mais nous vivons aussi par l'Esprit de Dieu. Et c'est ça l'essentiel. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et si vous êtes là ce soir et que vous n'ayez jamais accepté Christ, est-ce que vous voudriez dire ce soir, par la foi, à Christ, viens ce soir dans mon cœur et sauve-moi et remplis-moi. Ce n'est pas difficile à faire. Ce n'est pas à votre sujet, c'est au sujet de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Tout comme Abraham l'a fait, cette grâce lui a été donnée. Levez vos mains si vous voulez accepter Christ ce soir. Partout, même sur Internet, ce soir, si quelqu'un regarde, vous pouvez venir vers Christ par la foi, juste comme vous êtes. Et les fruits vont suivre abondamment à cause de sa grâce, alors que vous vivez dans sa grâce, dans le nom de Jésus. Amen.